Si nous effectuions un sondage d'opinion parmi les gens francs et sincères pour connaître leurs impressions sur la manière dont est vécu le christianisme aujourd'hui, je crois fort que dans leurs commentaires, un mot surtout se rencontrerait plus que tout autre. Et ce mot, c'est apathie, ou ses synonymes, c'est-à-dire l'indolence, cette sorte de paresse dans laquelle on se vautre parce qu'on y trouve du plaisir, cette sorte de mollesse qui implique l'indifférence et l'inertie. Nous avons bien parfois quelques soubresauts de piété, mais ceci ne se borne qu'à un déplacement du corps, pour assister à un office religieux par exemple. Dans ces cas, il n'y a généralement aucune dépense d'énergie spirituelle. Oh, il ne faut toutefois pas dire que la conscience ne travaille pas, car elle se consume dans une activité de justification, c'est-à-dire que dans notre indifférence religieuse, nous essayons de nous persuader que Dieu, s'il y en a un, ne pourra pas me tenir rigueur de quoi que ce soit. Après tout, je ne fais rien de mal, je paye mes impôts, je ne suis ni voleur, ni adultère, ni meurtrier, etc. Insensés que nous sommes. Car si nous nous abstenons de faire ce qu'il ne faut pas faire, nous nous abstenons aussi de faire ce qu'il faut faire. Nous nous sommes enlisés dans un raisonnement négatif, alors que la religion du Christ est un feu qui devrait nous embraser en nous poussant vers l'activité dynamique, même si ces deux termes constituent un pléonasme. Dans notre conscience ainsi faussée qui ressemble à une montre désormais détraquée, nous nous sommes fabriqués un Dieu et une religion bien à nous. Nous nous sommes entraînés à ne concevoir qu'un Dieu immensément bon et miséricordieux, qui, comme nous, ne ferait pas de mal à une mouche. Ce Dieu-là est un faux Dieu, car il est incomplet. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ni le Dieu de Moïse, ni le Dieu des apôtres, car celui-là est miséricordieux parce qu'il est bon, mais sévère et intransigeant aussi, parce qu'il est juste. L'apôtre Paul écrivait aux églises de la Macédoine qu'il est de la justice de Dieu qu'il punisse ceux qui persécutent les chrétiens et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Parallèlement, sa justice s'exercera en ce qu'il donnera enfin le repos à ceux qui sont affligés et que le Seigneur trouvera fidèle lorsqu'il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Serions-nous contraints d'annoncer au XXe siècle ce même Dieu inconnu que Paul annonça aux Athéniens pour la première fois il y a plus de 1900 ans? Car il faut en convenir, le Dieu de nos imaginations n'est pas le Dieu de la Bible. Nous avons changé et son identité et sa loi. Et puisque nous parlons de la Bible, il faut souligner que c'est elle seule qui nous révèle le vrai visage de Dieu dans toute sa bonté et sa justice. Le lecteur de la Bible ne s'étonnera pas de la sévérité de certains passages qui expriment définitivement l'intransigeance de Dieu en ce qui concerne l'obéissance à ses commandements et le respect dû à ses lois. Nous vivons à une période de notre histoire où les questions religieuses ont été remises en lumière et où tente de s'installer un peu partout le règne de la tolérance. Non pas que la tolérance soit une mauvaise chose, car elle se faisait plutôt rare. Ce que nous voulons dénoncer, c'est qu'au nom de la tolérance, nous sommes soudain devenus trop tolérants. Autrement dit, nous sommes prêts à faire toutes sortes de concessions et d'apologies au détriment de la foi transmise une fois pour toutes. C'est là une autre forme et une autre conséquence de l'apathie qui paralyse notre christianisme. Soudain réveillé par tout le bruit qu'on fait autour de nous sur la question religieuse, on se réjouit de ce qu'enfin toutes les barrières seront bientôt abolies et qu'il n'y aura plus de division entre les grandes tendances du christianisme. Car après tout, nous avons le même Dieu et nous devons être frères. Et sur ce raisonnement, tellement profond qu'il sonne creux, nous avons succombé à la tentation de le dire, on se rendort pendant une génération. Pouvons-nous nous imaginer ce qu'aurait été le contenu des épîtres si les apôtres avaient été mus par un tel esprit? Pour l'apôtre Paul, par exemple, pour cet homme à l'énergie inépuisable, malgré les chagrins et les fatigues, le chemin qui mène à Dieu n'est pas tortueux. Il n'est pas compromis. Il n'est pas incertain. Il mène résolument à Dieu par Jésus-Christ, le seul Maître. C'est par le sacrifice de Jésus, par la foi obéissante, que l'homme peut obtenir le pardon de ses péchés. « Je m'étonne, dit-il aux chrétiens de la Galatie, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile, Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et il ajoute, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. » Par cette déclaration, il vient de confondre notre largesse d'esprit, qui n'est souvent en réalité que complaisance coupable en face de l'erreur. C'est aussi une forme de lâcheté. Voici comment un esprit moderne aurait conçu l'Épître aux Romains. N'oublions pas que Paul projetait de se rendre à Rome et qu'il aurait eu intérêt à ménager ses remarques pour s'attirer la sympathie du plus grand nombre. Voici donc la version moderne des Épîtres de Paul. Paul, à tous ceux qui à Rome vivent chrétiennement, quel que soit leur nom ou leur doctrine, salut. Je me réjouis en apprenant votre dévouement et j'ai hâte de vous voir pour m'entretenir avec vous de diverses méthodes d'évangélisation. Car je n'ai point honte de l'évangile que j'annonce, et j'ai l'assurance qu'en insistant sur les points les moins controversés dans le monde religieux, et en évitant soigneusement toute discussion sur des points litigieux, l'évangile que j'annonce pourra être favorablement accueilli même à Rome. En évoquant les églises de la Galatie, il aurait pu écrire « Il est vrai que de regrettables anathèmes ont été prononcés en Galatie contre ceux qui annoncent un autre évangile que le nôtre. Cependant, à notre arrivée à Rome, nous éclairerons les églises sur cette question, car loin de nous, l'idée de décourager ceux qui pensent trouver le salut en observant la loi de Moïse. Que chacun suive les directives de sa conscience. Car que ce soit par Moïse ou par Jésus-Christ, nous aboutirons tous au même Dieu qui est Père de tous. » À Éphèse, un bien regrettable incident a laissé l'impression que notre évangile voulait détrôner la diane des Éphésiens. Sachez, frères, que rien n'est plus éloigné de nos intentions que le fait de vouloir détrôner une telle personnalité. Nous l'avons dit précédemment et nous le répétons à cette heure. Si quelqu'un peut aboutir à la divinité au moyen de diverses représentations plastiques, communément appelées idoles, loin de nous l'idée de l'en dissuader. Nous ne cherchons pas à détourner quiconque de sa foi. Nous veillons seulement à ce que tout homme sache mettre à profit la croyance qu'il a reçue ou acquise. Voilà l'évangile que l'on prêche aujourd'hui, l'évangile de la tolérance, de la conciliation et de la compromission. Un évangile complaisant, qui n'est qu'une caricature de l'original. Si c'est dans cet esprit-là qu'il faut concevoir les Écritures, il faut réécrire toute la Bible pour ne laisser que les grands principes généraux qui ne veulent plus rien dire. Au contraire, les écrits de Paul plongent d'emblée dans les sujets les plus controversés à l'époque et qu'il affirme avec une autorité et une fermeté désarmantes. Peut-on concevoir à cette époque-là sujet plus âprement discuté que celui de la résurrection du Christ? Pourtant, dès l'entrée dans ses épîtres, il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Il souligne la nécessité de la foi, l'importance de la repentance et du baptême. Il dénonce le péché et révèle le seul moyen du salut, Jésus-Christ, offert comme victime expiatoire pour les péchés des hommes. À ceux qui, dans les églises de la Galatie, cherchaient à concilier la loi de Moïse et la loi du Christ, Paul enverra un mot de protestation véhément. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous dirons à cela, bien sûr, c'était l'apôtre Paul. Lui seul pouvait se permettre des affirmations et des censures aussi virulentes que définitives. Dans un sens, il est vrai que nul d'entre nous ne jouit des prérogatives d'un apôtre. Cependant, chacun de nous peut et doit considérer ces écrits de Paul, ainsi que tout autre écrit inspiré, comme une autorité indiscutable en matière de religion. Cela veut dire que là où la Bible parle, nous devons parler avec elle et comme elle. Quant aux questions qu'elle tient sous silence ou qu'elle n'aborde que très superficiellement, abordons-les, nous aussi, avec prudence et circonspection. nous gardons bien d'imposer des doctrines et des pratiques étrangères à la Bible. Mais là où la Bible est formelle, nous n'avons pas le droit d'être vagues. Là où elle est catégorique, avons-nous le droit d'être tolérants? Toute écriture est inspirée de Dieu, dira l'apôtre Paul, et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lundi prochain, nous poursuivrons cette étude qui a pour but de nous réveiller à la réalité de la parole de Dieu. La Bible n'est pas une relique. Elle est la parole vivante que les apôtres considéraient comme une épée à deux tranchants, pénétrante et efficace, comme une puissance de Dieu qui peut mener tout homme au salut. Je vous donne donc rendez-vous à lundi prochain à la même heure.